Les contes sont inspirés par le sol même, une sorte de sens qui en émane, une vérité qui naît du regard patient de l'homme sur les choses, sur les lieux et les êtres de son univers familier. La légende est ce qui permet à l'homme d'habiter le monde.
Salut à vous, ici la pensée des peuples sur RDOS 107.5. Aujourd'hui, on est partout à la rencontre du Japon.
Un haïku de Veda Chouchou. Fût-elle en mille éclats, elle est toujours là, la lune dans l'eau. Sur le site kanpai.fr, la cérémonie du thé. Un art traditionnel japonais pour servir le matcha. Importé de Chine au XIIe siècle, le thé vert en poudre, plus connu sous l'appellation de matcha, est une des boissons favorites des Japonais. Adopté par les moines bouddhistes, puis les guerriers samouraïs, on le déguste pur lors de Sado, la cérémonie du thé traditionnel. Ses origines, imaginées au XVIe siècle par Senno Rikyu, la cérémonie du thé japonaise comprend quatre grands principes, résumés dans l'expression « wa, kei, sei, jaku ». « Wa » veut dire « harmonie »,« kei » respect, « sei » pureté et « jaku » tranquillité. De nos jours, c'est cette même philosophie qui est toujours enseignée dans les écoles. Le maître de cérémonie doit également avoir reçu une formation dans les domaines artistiques traditionnels, que sont l'arrangement floral, la calligraphie, le kimono, la céramique et les encens. On considère que l'enseignement, puis la pratique, dure toute une vie, et que l'on reste toujours le disciple de son sensei, professeur. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, la cérémonie du thé s'avère exclusivement pratiquée par les hommes. C'est l'occasion pour les samouraïs d'échanger, et de comploter à l'abri des combats et des regards. Durant l'ère Meiji, qui sonne le déclin de ses guerriers, les femmes reprennent le flambeau, et maintiennent ainsi la tradition pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui encore, la coutume habituelle veut que les femmes exécutent plus souvent la cérémonie du thé que les hommes. Chaque trait de mon pinceau est l'aboutissement de l'énergie la plus profonde de mon cœur, Sengai. Dans les contes des sages du Japon de Pascal Folliot, la larme de Ryokan. Le frère cadet du moine Ryokan avait un fils qui lui causait bien du souci. Le jeune homme avait pris goût au plaisir du monde flottant. Ce fils aîné, prodigue, qui avait vocation à devenir son tour le chef du village, ruinait sa réputation et son héritage dans le saké, le jeu, les dettes et la fréquentation assidue de courtisanes. Personne n'arrivait à le raisonner. Le père désespéré fit donc appel à son aîné, le vénérable ermite, pour qu'il vînt le sermonner. Ryokan accepta de venir passer quelques jours chez son frère. Le neveu rentrait tard et faisait tout pour éviter son oncle, car il connaissait le motif de sa venue. Mais, invariablement, il le trouvait sur son chemin, même au cœur de la nuit, admirant la lune dans le jardin, ou calligraphiant un poème sur la véranda. Le jeune dépravé le saluait furtivement avec la crainte d'être chapitré. Mais le vieil ermite se contentait de lui sourire avec bienveillance. Quand l'heure du départ de Ryokan sonna, le neveu dut quitter sa chambre à contre-cœur pour venir saluer son oncle avec le reste de la famille. certain que cette fois, il allait être tensé vertement devant tous. Effectivement, le moine l'interpella. « Mon cher neveu, approche. Tu vois comme mes mains tremblent. Aurais-tu la gentillesse de nouer mes sandales ?» Le jeune homme s'agenouilla devant son oncle, à sa merci, craignant le pire. « Tu vois, reprit Ryokan, en lui posant une main affectueuse sur son épaule, à mon âge, on est bien diminué. Prends bien soin de toi, car, dans ta vieillesse, je ne sais pas qui nouera tes sandales. » Le frêle vieillard ne dit rien de plus, mais laissa couler une grosse larme sur le visage de son neveu, tout en se levant péniblement, en prenant appui sur son épaule. Et les larmes du jeune insouciant se mêlèrent à celles du bon moine. Il est dit que cette larme de Ryokan eut pour effet de changer radicalement la conduite de son neveu.
La la la, 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 la la la.
Sakura, sakura.
Contes des sages du Japon de Pascal Folliot. Sakurako la geisha. Sakurako, l'enfant du cerisier. Sakurako, l'enfant du cerisier, portait bien son nom de geisha. La renommée de sa beauté et le parfum de son charme s'étaient propagés dans tout l'archipel, comme les blancs pétales emportés par le vent. Les samouraïs et les notables, les plus fortunés d'Edo, même des daimyo, payaient le prix fort pour jouir de sa compagnie, ne fût-ce qu'un instant. Son visage avait l'éclat de la nacre, sa peau était aussi satinée que la fleur de magnolia. Le chignon de sa chevelure de jais, élégamment rehaussé de jade, de perles et de corail, découvrait sa nuque vertigineusement délicate et sensuelle. Son goût était exquis, les couleurs et les motifs de ses kimonos de soie étaient savamment assortis à son obi de brocart. Elle servait avec une grâce infinie le thé et le saké. Sa conversation était subtile, sa poésie raffinée, ses attentions délicieuses. Elle jouait merveilleusement bien du shamisen du koto. Sa voix était aussi pure que le chant cristallin d'une fontaine. Mais rien ne surpassait son art de la danse. Les poètes la comparaient à la légèreté du papillon, virevoltant entre les fleurs, à la branche de saule qui ondule dans le vent, à la parade nuptiale de la grue cendrée. Ses admirateurs étaient transportés dans un autre monde, persuadés qu'une divinité s'était incarnée ici-bas. Sakurako, la geisha, savait bien cacher sa secrète souffrance derrière le paravent de son art. Fille d'un samouraï déchu qui était mort de honte, elle s'était vendue à la patronne d'une maison de thé pour sauver de la misère sa mère, ses frères et sœurs. Son sacrifice était ce qu'on appelle pudiquement le prix des larmes. Sakurako savait également, comme l'indiquait si bien son nom de geisha, que sa beauté était aussi éphémère que la fleur de cerisier, emportée par le vent, à peine éclose. Parmi ses clients, beaucoup de soupirants rêvaient de l'avoir pour eux seuls, corps et âme. Ils lui offraient de l'or, des bijoux, lui proposaient d'en faire leur maîtresse en titre et lui promettaient de l'établir dans une riche demeure. Mais pas un ne parvenait à capturer son cœur. Et, riant derrière son éventail, elle répondait « Messire est trop bon, mais il veut me mettre en cage. Derrière des barreaux, le rossignol sauvage a-t-il encore envie de chanter ? Une geisha n'appartient à personne, c'est son seul privilège. » Un jour, hélas, l'un de ses serviteurs fit fondre la glace qui protégeait son cœur. C'était un jeune samouraï, le fils unique d'un daimyo. Il était beau, innocent, cultivé, doux, impétueux aussi. Elle refusa de le revoir, mais sa patronne fit pression sur elle jusqu'à ce qu'elle cède. Car le jeune seigneur était des plus fortunés. Elle mania avec lui l'ironie et la désinvolture pour le décourager. Mais rien n'y faisait. La passion l'envahissait et son jeune sang bouillonnait. Il parla de l'épouser, de l'enlever si elle refusait. Elle lui répondit qu'il gâcherait sa vie, qu'il couvrirait de honte son père et son clan, en s'enfuyant avec une geisha, que c'était leur dernière entrevue. Furibond, il déclara, « Jamais je n'aimerai une autre que toi. Il me semble t'avoir connu dans une autre vie. Un puissant lien karmique nous lie l'un à l'autre. Maintenant que nous sommes réunis, rien ne pourra nous séparer. Je fais le serment de ne plus manger et de venir passer chaque nuit sous ton balcon, tant que tu n'accepteras pas de vivre avec moi. Tant que tu n'accepteras pas de vivre avec moi. » Et le lendemain soir, sous l'œil de la lune, qui pleurait ses larmes de rosée, Sakurako aperçut prostré dans la ruelle le jeune samouraï pour qui elle ressentait une insoutenable faiblesse. Elle espérait que c'était une passade de jeunesse, mais, nuit après nuit, il revenait hanter les lieux, pareil à un fantôme de plus en plus famélique. Un matin, dans la pâle lumière de l'aube, où d'habitude il s'éclipsait, elle l'aperçut gisant dans la boue, sans vie. Affolée, elle courut avec ses servantes et constata qu'il respirait encore. Sans doute était-il tombé d'inanition. Elle le fit porter dans sa chambre et commanda un palanquin. Pendant qu'elle le veillait, elle écrivit une lettre. Avant que les porteurs ne ramènent le jeune homme à la résidence de son père, elle lui caressa la joue et glissa la lettre dans sa ceinture. Quand le fou d'amour ouvrit le message de sa bien-aimée, il put lire ce poème. « Le monde entier nous sépare, fruit de nos karmas, océan infranchissable. Ne coupons pas le rameau où fleurit l'espoir d'une si noble lignée. Tu m'oublieras dans les bras d'une digne épouse. Il n'y a d'autre remède. » Ce fut la dernière trace que laissa la sublime geisha. Le lendemain, elle avait quitté la ville. Le souvenir de Sakurako flotta encore quelque temps dans l'Edo, la capitale comme un air mélancolique. Puis la nostalgie de sa danse incomparable fut estompée par l'éclat d'autres fleurs du monde flottant. Son jeune soupirant la chercha des jours et des jours, la pleura des nuits et des nuits. Comme si elle avait emporté son âme, il garda la chambre un hiver. Mais au printemps, les forces lui revinrent avec la sève des arbres. Il connut à nouveau l'envie de croquer la vie. Ses parents lui présentèrent une fleur de haute naissance, et ils burent les trois coupes de l'union. 7 ans plus tard, une nonne vint mendier à la porte d'une belle demeure. La maîtresse de maison sortit elle-même pour remplir ce pieux devoir. Elle tenait par la main un jeune garçon. Quand l'enfant vit la religieuse au noble visage, où fleurissait un bienveillant sourire, il demanda à remplir lui-même le bol aux aumônes. Pendant qu'il la servait, elle ne put s'empêcher de sécher une larme d'un revers de sa manche et limée. « Pourquoi pleures-tu, belle dame ?» demanda le bambin. « Autrefois, j'avais un enfant qui te ressemblait, et j'ai dû le laisser. »« Pauvre garçon !» s'écria l'enfant. « Oh, crois-moi, c'était mieux pour lui. C'était mieux ainsi, et tu ne serais pas dans cette charmante maison. » Et, tout en lui caressant le visage, la nonne lui demanda « N'es-tu pas heureux ici ?»« Oh si, madame. » »« Alors moi aussi. Tu vois ce bol que tu as rempli ? C'est une barque qui vogue sur un océan de larmes et qui me porte jusqu'aux rives de la terre pure du Bouddha. » La pratiquante du Dharma reprit son chemin dans ce monde impermanent. Même dans l'eau boueuse, la fleur de lotus conserve sa pureté. En vérité, elle s'épanouit, merveilleuse, parce que de la boue, elle est née. Sengai. Sur le site kyototradition.com. Le kozode, l'origine du kimono et de son code esthétique. L'origine du kimono, littéralement, que l'on porte sur soi, le kozode, remonte au 7e siècle, alors que le Japon est sous influence chinoise. Le kozode est alors considéré comme un sous-vêtement, associé à un pantalon ou une jupe longue, ou encore une veste ample. Au 8e siècle, durant la période Nara, des législations ont été mises en place de sorte à distinguer les rangs sociaux, notamment par un code vestimentaire basé sur l'ensemble et les couleurs des vêtements. Une rupture diplomatique de la Chine et du Japon durant la période Heian laisse place au sens esthétique puis au raffinement, avec une attention particulière au niveau de l'harmonie des parures. Entrent en considération les saisons et les occasions durant lesquelles les vêtements étaient portés, mais aussi le rang social, et l'âge de celui ou celle qui les porte. Si auparavant, le même style de kimono était attribué aux deux genres, désormais, la différence entre le kimono pour homme et le kimono pour femme est bien marquée. Ces distinctions et cette recherche de l'esthétique ont contribué à l'évolution du kozode, initialement de couleur unie et teint, et désormais à motifs tissés. Il commence alors à s'extérioriser de manière importante. Sur le site kampai.fr, la religion et la spiritualité au Japon. Il y a 2 religions principales dans la société nippone, le shintoïsme et le bouddhisme. La spiritualité et leur appartenance ne sont pas exclusives. Ainsi, la grande majorité des Japonais s'identifient naturellement aux deux. C'est d'autant plus vrai que la présence religieuse fait partie intégrante de la vie quotidienne au Japon, à commencer par la présence d'innombrables temples et sanctuaires. Ainsi, depuis tout petit jusqu'à leur mort, les Japonais vénèrent les représentations de Bouddha et des Kami, les dieux shinto, à travers de nombreux rites et traditions. dans les contes des sages du Japon de Pascal Folliot, toujours, les deux moines et la geisha. Deux moines regagnaient leur monastère, en longeant sous une pluie battante le quartier des sols et des fleurs. Tous les deux formaient un couple bien mal assorti, qui donnait à leur association, contrastée, un air comique. Le corpulent, Tanzan, était d'un naturel débonnaire et bon vivant. Son confrère, Ekido, était tout l'opposé. Il avait l'âme aussi étriquée que son corps famélique, tant il était austère et ascétique. Parvenus à un carrefour, ils aperçurent une charmante geisha qui dansait, d'un pied sur l'autre sous son parapluie. Elle paraissait bien embarrassée, car elle ne savait comment franchir la rue ou courir un torrent boueux sans tacher son précieux kimono de soie. Le pudibond Ekido détourna la tête, faisant semblant de ne pas la voir. Mais son bienveillant acolyte s'approcha d'elle pour lui proposer son aide. Il n'hésita pas une seconde à la prendre dans ses bras pour la faire traverser. Tout le reste du chemin, le moine vertueux, Muka Muka, bouillait tellement, intérieurement, que de la vapeur s'échappait de son chapeau de paille. Il ressemblait à un chaudron dont le couvercle était prêt à sauter. Il ne pouvait s'empêcher, Mogo Mogo, de marmonner, non pas de pieuses prières, mais des reproches amers, tout en lançant des regards incendiaires en direction de son compagnon. À la porte du monastère, Tanzan demanda « Vas-tu enfin me dire ce qui ne va pas ?» Comme si l'autre n'attendait que ça, il explosa. « Ce qui ne va pas ? Toi, un moine, tu as osé prendre une femme dans tes bras, et qui plus est une geisha. Comment as-tu pu te souiller de la sorte ?»« Oh, ce n'est que ça !» s'exclama le bon Tanzan, hilar. « Mais vois-tu, je ne sais pas lequel de nous deux est le plus souillé. Il y a longtemps que j'ai laissé cette femme au bord de la route, mais toi, tu la portes toujours encore dans ton esprit. » Sur le site vivrelejapon.com, Zen, l'école de la vie. Le but du Zen est d'atteindre de manière intuitive un éveil soudain, Satori. Comment ? Par une discipline physique et mentale, un entraînement à une maîtrise du temps et par une conscience de l'espace. Pourquoi ? Pour combattre un ennemi intérieur, ce moi ignorant, nourri de peur et d'illusions. Les techniques et exercices des moines ont formellement marqué les arts et la civilisation japonaise, bien au-delà de la sphère spirituelle. Seulement la pratique conduit à un cheminement spirituel et individuel. Les adeptes du zen rejettent les artifices intellectuels et les futilités mondaines. Ils privilégient l'expérience du réel, ici et maintenant, sans espoir ni peur. Les temples et lieux zen au Japon. Au Japon, les temples zen de l'école Rinzai disposent de très beaux jardins, comprenant souvent un étang ou un lac, mais également le célèbre jardin de pierre, que l'on nomme Jardin zen en France, appelé aussi jardin sec. Ces étendues de gravier brossés où sont disposées des pierres illustrent un des aspects majeurs du zen, la volonté d'éliminer le superflu. Vous êtes toujours sur Erdiwa 107.5. Vous écoutez La Pensée des Peuples. Quelques proverbes japonais sur le site citationouestfrance.fr. Les mots que l'on n'a pas dit sont les fleurs du silence. Il n'y a pas de meilleur miroir qu'un ami véritable. Ce qu'un homme ne dit pas est le sel de la conversation. Sur le site kayobi.com, la pratique du tatouage au Japon est la somme de rituels vieux de plusieurs milliers d'années. Bien avant notre ère, on retrouve des traces du tatouage dès l'époque Jomon, environ 300 ans avant Jésus-Christ. C'est dans les tribus Ainu que le tatouage fait son apparition. Pratiqué essentiellement chez les femmes, le tatouage habillait le visage. Il était représentatif des choses, comme le statut social ou la maturité sexuelle. On prêtait aussi au tatouage des vertus thérapeutiques. C'est ensuite lors de la période Yamato, du 3e au 8e siècle, que le tatouage prend plus d'importance. On le retrouve sur des statuettes qui auraient eu pour rôle d'accompagner les défunts dans l'au-delà. C'est au 6e siècle que le bouddhisme, et plus largement la culture religieuse japonaise, commence à dénigrer le tatouage. L'aristocratie nippone était en effet très influencée par la culture chinoise, qui écartait les membres fautifs de leur communauté en leur tatouant le visage à l'image de leurs crimes. Très vite, le tatouage s'est répandu parmi les gens du peuple. Il leur était en effet interdit de porter des vêtements au dos ornés de motifs, réservés aux personnes importantes. Le tatouage décoratif semi-intégral ou intégral prit alors la place des kimonos, nippons, des personnes de haut rang. Le tatouage punitif de la criminalité fut interdit sous l'ère Meiji, en 1870. Il ne sera de nouveau légalisé qu'en 1945.
J'espère que ce petit voyage auditif vous a plu.